Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Laurence Creton, bonjour.
Bonjour.
Laurence Creton, vous êtes avec nous pour nous parler de votre venue à 10, vendredi 20 à 18h30 aux rencontres d'Iwaze. Et donc, ce sera à l'espace social et culturel du Diwa, où là, vous proposerez une conférence sur le parcours de pionnière de l'art, la sous-représentation des femmes dans l'art pictural et quelques parcours d'émancipation entre la fin du 19e siècle et les années 1960. Pourquoi ce propos?
Alors, ce propos m'a été inspiré bien sûr par l'époque, c'est-à-dire que effectivement, depuis quelque temps, on s'intéresse, les musées s'intéressent particulièrement donc aux œuvres des femmes. Ce n'était pas le cas, ça n'a pas l'air si évident que cela. Donc, je me suis un petit peu interrogée de façon à savoir, comme le dit le sous-titre de la conférence, pourquoi cette invisibilisation des femmes, notamment dans le milieu pictural, depuis le 19e siècle particulièrement.
Pour ça, vous avez rédigé un livre qui s'intitule « Camille Claudel, nos enfants de marbre ».
Oui, c'est ça,
aux éditions Élan Sud.
Oui,
alors,
c'est ça.
Voilà. Et donc, ce sont des enfants de marbre et c'est présenté sous des fragments épistolaires. C'est un dialogue entre qui et quelle personne?
Alors. Oui, alors peut-être que les gens connaissent bien maintenant a priori Camille Claudel, mais en vérité, donc en faisant des recherches sur cet artiste qui m'intéresse beaucoup, bien sûr on connaît sa liaison avec le sculpteur Rodin, mais dans l'atelier de Rodin, il y avait beaucoup de jeunes femmes, de beaucoup d'hommes aussi qui faisaient donc les petites mains hein, de Rodin, et en particulier donc Camille Claudel avait été donc en lien d'amitié avec une autre artiste, une anglaise qui s'appelle Jessie Lipscomb et qui était venue à Paris pour apprendre la sculpture justement avec Rodin. Et elle a été logée en vérité par la famille Claudel. Et dans les biographies officielles de Camille Claudel, on entend très peu parler, enfin on lit très peu de choses sur cette Jessie. Et de ce fait, j'ai imaginé là effectivement un roman avec donc une correspondance entre Jessie Lipscomb et Camille Claudel lorsqu'elles n'étaient pas évidemment ensemble à l'atelier, mais aussi Camille Claudel avec son petit frère Paul Claudel qui est devenu le grand Paul Claudel, mais qui m'a permis d'explorer justement ce parcours de cette femme sculptrice qui a été aussi intéressante, on va dire, que Rodin, qui est allée même plus loin dans certaines choses artistiques que Rodin, mais qui finalement a toujours été dans l'ombre de Rodin, et c'est bien pour ça qu'elle a eu du mal à vivre cette comparaison systématique qu'il y avait avec Rodin.
Qu'est-ce que vous avez amené dans ce regard de Camille Claudel, dans cette correspondance, on peut dire, imaginaire ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est une correspondance vraiment que j'ai imaginée, mais qui s'appuie quand même sur les dates sont réelles, les sculptures que j'évoque, tant chez Rodin que chez Camille Claudel, sont bien élaborées dans les dates que je mentionne. Alors après, la part d'imaginaire, évidemment, au-delà de la correspondance qui n'existe pas, par exemple, entre Jessie Lipscomb et Camille Claudel, on n'a pas de lettres véritables. J'ai imaginé donc selon les rumeurs qu'il y a eu à l'époque, Camille Claudel et Rodin auraient eu un, voire deux enfants, bien sûr illégitimes. Et moi, j'ai imaginé qu'est-ce qui se serait passé si effectivement, véritablement, Camille Claudel avait accouché et qu'est-ce qu'elle aurait fait de cet enfant. Et j'ai imaginé qu'elle le confiait, justement, qu'elle l'aurait confié à Jessie Lipscomb, son amie. Donc, c'est une possibilité, disons qu'évidemment, ça n'a jamais été prouvé, mais à l'époque, c'était très facile, entre guillemets, de se débarrasser d'un enfant ou en tout cas de ne pas passer chez un notaire, de le confier soit aux bons soins d'une famille qui voulait bien le recueillir. Donc, c'est possible, en fait. Donc, après, je ne dis pas que c'est la vérité, mais ça m'a permis de voir aussi comment, quand on est une femme artiste à l'époque donc du 19e, comment on ne peut pas en fait concilier la maternité, la création et aussi le lien avec un homme aussi influent que Rodin, parce que j'aime beaucoup évidemment Rodin en tant qu'artiste, mais il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour aider Camille Claudel, mais dans l'époque où ils ont vécu, c'était les hommes de toute façon qui étaient au centre de l'attention artistique. Ça l'est toujours d'ailleurs un peu.
D'ailleurs, vous l'indiquez, elle signait ses travaux en Mademoiselle C.
Oui.
C'était pourquoi, d'après vous?
Alors, c'était bon, un petit jeu de mots parce que elle l'écrit SAY, c'était un petit peu à l'anglaise pour signifier le C de Claudel, mais parce que Claudel s'était déjà pris d'une certaine façon à la fois par son frère mais aussi par sa sœur, parce qu'elle avait une sœur qui était pianiste, et puis elle avait une acquaintance particulière avec l'Angleterre, elle se rendait très régulièrement en Angleterre, on le sait moins, et du coup ça faisait un petit nom anglais, et c'était également aussi parce que de toute façon c'était Mademoiselle qui dit, qui raconte, hein, le verbe anglais dire, c'est celle qui raconte, et c'était sa façon à elle de se cacher derrière un autre pseudonyme.
Le premier roman que vous aviez écrit, La Balançoire, c'est aussi un journal, une correspondance.
Alors, ce sont plutôt des deux journaux en fait intimes croisés, et là, ça rejoint un peu le thème de la maternité ou de la sororité qui me sont chers, mais c'était plutôt deux journaux croisés à partir donc de deux jeunes filles qui apprennent, deux jeunes femmes qui apprennent qu'elles sont demi-sœurs, mais à l'âge adulte, et donc qui vont découvrir ce que ça veut dire d'être demi-sœur quand on n'a jamais vécu ensemble, quand il y a eu un secret de famille donc au cœur de cette famille, de ce parcours, et deux sœurs qui n'ont pas de lien en plus culturel, puisque l'une est comédienne à Paris et l'autre elle est caissière, donc a priori elles n'ont pas de point commun, et elles vont cheminer pendant un certain temps ensemble, et on va lire en fait leurs deux journaux croisés qui sont pas du tout écrits de la même façon, mais qui permettent de voir comment elles se rencontrent et où est-ce qu'elles peuvent effectivement se rencontrer en tant que sœurs sans avoir vécu une enfance ensemble.
La femme, dans certaines époques, est un sujet d'intérêt pour vous. Est-ce que c'est le contexte actuel qui vous a motivé à cette rédaction?
Alors, pas forcément seulement le contexte actuel. Bon, peut-être que c'est aussi parce que je suis une femme, mais c'est surtout la place justement de l'artiste femme en général qui m'intéresse. C'est-à-dire comment on fait pour créer dans un monde globalement hyper masculin, c'est-à-dire où les représentations sont justement masculines a priori, où le marché de l'art est masculin et la représentation n'est pas fa facile. Donc, on classe toujours, et encore aujourd'hui, hein, puisque je regardais les cotes de certaines artistes, femmes, peintres, c'est toujours sous-évalué. C'est-à-dire que elles ont beau être connues, elles sont toujours au moins payées aux deux tiers moins que les artistes hommes. Et pourtant, on n'en voit pas de différence. Hein. Si on montre sans mettre les prénoms et le nom sous les tableaux, on ne voit on ne voit pas la différence et pourtant elles sont sous-payées. Donc c'est ce statut-là qui m'intéresse, pour quelles raisons, comment ça fonctionne et comment peut-être aussi on peut briser un petit peu ces codes-là. C'est-à-dire qu'à force, sans être une féministe acharnée, je pense qu'il faut quand même montrer, justement, c'est le but de la conférence, de montrer de plus en plus de femmes de pas penser qu'elles n'existaient pas ou elles étaient mineures. Non, elles étaient là. Sauf que l'histoire de l'art ou l'histoire littéraire ne les montrait pas. Donc évidemment, on ne les connaît pas, mais elles existaient, elles étaient là. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse, c'est de leur rendre une visibilité, donc pour qu'on puisse voir que effectivement elle représente toujours quelque chose.
Vous êtes professeur de lettres modernes actuellement et
Oui.
vous êtes aussi donc auteur, autrice et éditrice. Vous éditez mes éditions du Revif
Oui, c'est ça.
et conférencière. Cette maison d'édition, elle a une optique dans ce qu'elle édite.
Alors, nous sommes à Paris, effectivement, et donc une petite équipe. Nous avons plusieurs collections. Donc une collection qui revisite des récits ou des romans qui sont un petit peu tombés dans l'oubli, justement, pas forcément de femmes seulement, mais d'hommes aussi, qui sont un petit peu oubliés. Donc nous avons une collection cinéma, donc pour aider aussi à mettre en valeur des cinéastes, ben, comme René Clément, Melville, Jean-Pierre Melville, etc. Nous avons une collection d'art, de littérature contemporaine. Donc on a plusieurs petites collections pour montrer un petit peu la diversité donc justement de création, parce que c'est ça qui fait vivre l'édition indépendante et qui permet de découvrir pour le lecteur d'autres formes d'expression.
Vous avez rédigé Horizon
Crépusculaire.
crépusculaire, avec les aspects de la modernité dans le roman autrichien et le français, fin de siècle, 1870-1930. Deux époques, une époque charnière hein, pour ces
Oui.
deux pays, hein, dans le nôtre. Qu'est-ce qui vous a motivé aussi dans cette démarche de cette époque?
Alors là, c'est effectivement on va dire c'est ma thèse de doctorat en littérature comparée, et ce qui m'avait intéressé dans ce sujet. Donc moi je suis germaniste en tout cas, j'aime beaucoup la littérature autrichienne, et au tournant du siècle, hein, ce qu'on appelle tout ce tournant du siècle, justement 1870, qui va jusqu'au retentissement donc après la Première Guerre mondiale, donc toute cette bascule de la littérature, et qu'on constate en Autriche avec des gens qui ont été très influencés, ou en tout cas dans la même ville que Freud. Donc comment les romanciers, comment les artistes commencent à travailler avec l'inconscient, avec ce qu'on sait de l'inconscient à cette époque-là, et comment ça bouleverse les nouvelles formes du roman. C'est-à-dire on va s'interroger plus sur, on va dire, la psyché, on va rentrer dans le cœur de ce qui nous fait battre, mais on va le dire peut-être moins de façon moins sentimentale, justement, parfois plus érotique, parfois plus complexe. Donc c'était ce qui m'intéressait de voir à travers beaucoup d'auteurs donc connus ou moins connus, parce que chez les Français, j'ai par exemple étudié, alors Huysmans, on connaît un peu, mais il y avait d'autres décadents dans la lignée de Baudelaire, mais des romanciers qu'on a un petit peu oubliés maintenant, mais qui ont fait progresser un petit peu le roman aussi dans leur vision donc particulière.
Ce sont des comparaisons entre 18 auteurs de ces époques. Et vous citez d'ailleurs deux personnes, deux femmes, l'une Rachilde et l'autre Lou Salomé. On peut noter aussi un manque de parité dans ce domaine.
Oui, tout à fait. Rachilde, c'était une autrice, mais surtout une grande journaliste à la fin du 19e siècle. C'est l'une des premières grandes journalistes françaises qui a couvert donc beaucoup de reportages en France, mais aussi donc en Afrique du Nord. Et en fait, on l'a quasiment oubliée, mais elle a écrit aussi des romans. Donc, les romans sont moins intéressants, je dois dire, que sa plume journalistique, mais n'empêche que elle était dans l'air du temps puisqu'elle a publié vraiment des romans sur les sujets qui fâchent encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'androgynie, ce qu'on appelle donc les problèmes du genre. Donc elle était en plein dedans. Et puis Lou Andrea Salomé, c'est alors on la présente souvent comme la muse de Rilke, le poète autrichien, mais c'est plus qu'une muse, c'est une femme qui a été écrivain et aussi psychanalyste. Elle était donc quasiment l'égale de Freud. Donc ces deux femmes-là donc ont écrit et c'est vrai qu'on les a quasiment oubliées. Donc c'était une façon évidemment de les remettre à l'honneur, mais c'est vrai qu'on était loin d'être dans la parité littéraire de cette époque, oui.
Il y a cet aspect que vous citez sur la modernité, les métamorphoses du roman moderne et comment la crise de la société, elle se manifeste en France avec l'affaire Dreyfus et en Autriche avec l'antisémitisme naissant. Est-ce que c'est un rappel quelque part? Est-ce que vous avez le sentiment de bouleversement comme notre époque avec ce début de siècle?
Oui, enfin, c'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes. Je viens de parler de la confusion des genres et de donc justement masculin, féminin, l'androgyne, les gens un petit peu interlopes d'une certaine façon. Eh bien, on retrouve un petit peu cela dans les débats actuels. La crise économique, la crise sociale qu'il y a eu effectivement, notamment avec l'affaire Dreyfus et donc effectivement en Autriche avec tout ce qui s'est passé avant donc le déclenchement de la Première Guerre, oui, ça fait écho à ce que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les moments de crise, on va se réfugier dans les extrêmes politiques et les tensions vont effectivement apparaître de toute façon dans le roman et on va avoir des personnages qui sont en crise, eux aussi, crise existentielle et c'est vrai que ça fait écho à notre monde contemporain, effectivement. Et puis donc malheureusement, ça aboutit donc pour la France d'une certaine façon et pour l'Autriche, ça c'est sûr, donc à la guerre. J'espère qu'on n'en arrivera pas là.
J'ai omis Soleil brouillé, donc ça c'est un recueil de nouvelles. La nouvelle aussi pour vous, qu'est-ce que ça représente face à un roman?
Alors là, ce sont des nouvelles ou des récits, en tout cas, qui mettaient justement l'art. Dans chaque nouvelle, il y a un art différent qui est mis à l'honneur, en plus d'une histoire, évidemment. La nouvelle, ou le récit court, c'est toujours une gageure parce que c'est évidemment la forme longue que je préfère. Je préfère écrire des romans, mais c'est vrai que cette intensité qu'on peut trouver dans la nouvelle, c'est assez plaisant, ça force à donc dire l'essentiel en quelques pages, donc c'est un exercice de style assez intéressant. Mais c'est vrai que je suis plutôt maintenant dans la forme longue, puisque je prépare encore un roman là, en fait.
Des livres aussi sur l'étude de la littérature sont aussi dans vos perspectives?
Des livres sur la littérature en tant qu'essai, vous voulez dire des essais sur la littérature?
Oui.
Oui. Alors pour l'instant, non, je n'ai pas. Quand je réfléchis sur le sujet de la littérature, d'abord je le fais avec mes élèves puisque je suis professeur, mais en fait c'est plutôt lors des conférences que je vais un petit peu plus m'exprimer sur la littérature. Là, j'ai en préparation donc une conférence sur Annie Ernaux. puisque donc elle vient d'avoir le prix Nobel de littérature et qu'on m'a demandé de la présenter dans plusieurs lieux. Et c'est vrai que voilà, ça me permet d'exprimer un petit peu ce qu'est la littérature à travers là, du coup, le parcours de d'Annie Ernaux. Il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà, donc c'est ma façon à moi, mais je n'ai pas le temps d'écrire un essai. Je préfère me consacrer à la fiction à côté.
Une question me vient, c'est pourquoi votre intérêt sur des auteurs du siècle du 19e, voire début du 20e? Est-ce qu'aujourd'hui, certains auteurs vous trouvent, est-ce que vous y trouvez un intérêt?
Oui, alors moi, je viens de parler de d'Annie Ernaux, donc qui certes est âgée maintenant, mais effectivement, elle est notre contemporaine. Moi, je lis énormément d'auteurs femmes contemporaines, bien sûr des hommes aussi, mais c'est vrai que par un certain nombre d'années, c'est vrai que j'aimais beaucoup le 19e siècle, je l'aime toujours, et c'est vrai que voilà, je me suis nourrie quand j'étais plus jeune de George Sand, Colette. Je trouvais qu'il y avait une liberté de ton et un style particulier. Voilà, donc c'était un petit peu mon adolescence qui a été prolongée longtemps. Après, je continue, je lis énormément de contemporaines que j'aime beaucoup. Alors maintenant, elle est un petit peu âgée aussi, mais j'aime beaucoup Sylvie Germain. J'aime beaucoup même Virginie Despentes. Enfin, il y a des plumes qui sont très évidemment très différentes, mais bien sûr que je lis ce qui s'écrit aujourd'hui.
La littérature masculine, sont pour vous, plus secondaires?
Non, 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 mais c'est vrai que je m'y retrouve plus peut-être en tant que femme, mais bon, par exemple, enfin, ça reste un de mes auteurs préférés, ça reste Jean-Marie-Gustave Le Clésio. Et indépendamment du fait que ce soit un homme, c'est-à-dire que pour moi, c'est un univers que enfin, je lis toujours Jean-Marie Le Clésio, toujours avec un grand plaisir. Voilà, donc je ne fais plus attention véritablement si c'est un homme ou si c'est une femme. C'est un auteur, c'est d'abord quelqu'un qui nous embarque dans une histoire et qui a un style, donc immédiatement reconnaissable. Et donc, je me nourris autant de littérature, on va dire, masculine que féminine, heureusement.
À ces auteurs d'aujourd'hui, vous citez Jean
Le Clésio,
Le
oui,
Clésio,
ouais.
mais quel est l'impact, à vos yeux, des auteurs d'aujourd'hui en comparaison de ceux qu'on avait à l'époque, fin 19e? On peut parler de Rilke. Est-ce que tous ces auteurs, d'ailleurs, de cette époque-là, avaient une telle importance comme ceux qu'on a aujourd'hui?
C'est difficile de répondre parce que les circuits sont complètement différents. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aborder le fait que maintenant, alors d'une part, il y a quand même un peu moins de lecteurs. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est vrai qu'il y a moins de lecteurs. D'un autre côté, il y a les réseaux sociaux ou les réseaux ou les plateformes comme Babelio qui permettent à des communautés de lecteurs de se dire, de partager des lectures, ce qui n'existait évidemment pas donc au 19e siècle. Il y a moins d'importance aujourd'hui à des revues littéraires. Moi-même, j'en lis très peu, alors qu'au 19e siècle, il y avait tout un travail de critique littéraire qui faisait que, donc, par exemple, les Autrichiens dont on parle, Musil, donc Zweig, etc. Ils étaient très bien informés de ce qui se passait en France, en Angleterre, dans la littérature mondiale, parce qu'il y avait des revues qui étaient accessibles. Nous, bien sûr, évidemment, il y a au-delà des réseaux, il y a encore des journaux, bien sûr, qui font leur travail, ou des médias qui font leur travail, mais il y a moins je pense, cet échange qu'il y avait au 19e siècle. Donc, c'est très difficile de comparer les deux façons de faire. Et puis, il faut un certain temps, de toute façon. C'est difficile de dire aujourd'hui, en 2023, quels sont les auteurs qui vont rester, quel que soit leur sexe, quels sont les auteurs qui vont rester dans l'histoire de la littérature, dans lesquels desquels on parlera dans 20 ans encore. On peut avoir une petite idée, mais l'histoire nous montre que justement de grandes plumes, on les a quasiment oubliées parfois dans l'histoire. Donc c'est difficile.
Est-ce que, à vos yeux, ces auteurs oubliés ont peut-être, vous trouvez cela regrettable, justement, cet oubli, et quel message
Oui,
véhiculait-il?
c'est pour ça que donc en tant qu'éditrice, j'avais choisi d'avoir une petite collection justement d'auteurs un petit peu oubliés parce que en fait ils ont quelque chose encore à apporter à la fois sur leur vision de leur époque, mais aussi parce que ils écrivent très bien pour certains. Donc c'est regrettable qu'on mette toujours un petit peu comme des têtes de gondole, on met toujours les mêmes personnes en tête et on en oublie certains. Donc c'est ça qui est un petit peu regrettable, mais c'est un petit peu normal. Il y a une telle demande, enfin il y a une telle offre de livres que c'est normal aussi qu'il y ait une sélection qui se fasse d'une certaine façon.
Justement, l'édition, pour vous, c'est réédition de textes anciens. Pour vous, c'est la manière aussi peut-être de combler ou un manque de ces ouvrages dans les rayons de librairie.
Oui, tout à fait. Oui, il faut les deux. C'est-à-dire, il faut évidemment aider à la création contemporaine, donc favoriser les livres, donc les voix des contemporains. Mais il ne faut pas oublier, effectivement, d'aller continuer à aller chercher les auteurs un petit peu oubliés. C'est le travail bien sûr des historiens, des étudiants en littérature, mais c'est aussi le travail des éditeurs. Il faut faire une place aussi à ces textes qui existent, que de la même façon que dans la conférence, je vais parler donc des peintres femmes oubliées. On semble les redécouvrir. Oui, ben heureusement. Parce qu'elles étaient là, elles ont vendu, elles ont été présentes, et ce n'était pas seulement des muses, soi-disant, c'était des créatrices. Donc il faut les remontrer, elles ont une légitimité.
Laurence Creton, vous aurez donc à dire, avant de nous quitter, est-ce que vous avez un site internet
Eh bien non, il est en cours de fabrication là pour l'instant, donc je n'ai pas de site internet, mais en tout cas, donc je serais ravie de répondre aux messages si j'en ai, mais non, je suis en train de l'élaborer là effectivement avec un ami, parce que je suis pas aguerrie en informatique.
Voilà, et vous avez donc cette maison d'édition du Revif.
Oui, voilà, tout à fait.
Eh bien, je vous remercie en tout cas, Laurence Creton.
Merci.
Alors, vous serez présent, je le rappelle, vendredi de 18h30 à 20h30 à Die, à l'espace social et culturel du Diois. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup. Merci.
Au revoir.
Au revoir.